Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'infos de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée. Compile de la chronique des mots sur la langue de Loïsa.
6 heures avant minuit.
Chronique littéraire aujourd'hui, ça s'appelle « Des mots sur la langue » et Loïsa Jacques nous y confie ses livres de chevet.
Des mots sur la langue. Je le vis, je rougis, je pâlis à ses yeux. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger.
Les livres de Loïsa.
À la pompe, les Russes nous observaient toujours à la dérobée. Ils ont compris depuis longtemps que ce sont d'abord les vieilles et les bossus qu'on délègue ici. Je plisse donc le front, tire les commissures de mes lèvres vers le bas, fais les petits yeux pour avoir l'air vieille et moche. Au début, quand je n'étais pas encore connue comme le loup blanc, nos autres Russes me demandaient souvent mon âge. Quand je leur répondais que j'avais passé les 30 ans, ils ricanaient et répondaient « Eh, elle se vieillit, la maline !» Mais ils étaient bien obligés de croire la carte d'identité que je leur brandissais alors sous le nez. Ils ne s'y retrouvent plus avec les femmes d'ici. Ils sont habitués aux Russes, vite avachis, abîmés par les grossesses successives, et ne savent pas lire notre âge sur notre corps. Aussi piteuse et misérable à voir que soit aujourd'hui la plupart d'entre nous, en comparaison de ce qu'elles étaient en temps de paix. Un Russe, aux joues rouges, se promenait le long de notre rangée, en jouant de l'accordéon. Il nous interpella. « Hitler fini, Goebbels fini, Staline, bien !» Il rit, lance son juron à la mer, tape sur l'épaule d'un camarade et crie en russe, bien que personne dans la queue ne comprenne ce qu'il dit. « Regardez celui-là !» C'est un soldat russe, venu de Moscou, à Berlin. Ils sont tellement fiers d'être les vainqueurs que ça leur sort par tous les pores. Apparemment, ils n'en croient pas leurs yeux eux-mêmes d'en être arrivés là. Nous, on avale tout, on fait la queue et on attend. C'était une femme à Berlin, journal, 20 avril, 22 juin 1945. Je sais pas si vous faites ça, vous, mais moi, sur la page de garde de mes livres, souvent, je marque l'endroit où je l'ai lu et puis la date. Et là, j'ai marqué 2008, Berlin. Donc, j'ai imaginé, à partir de ma lecture, je regardais la ville et je faisais venir en une superposition, une strate du printemps 45, où Berlin était en ruine et il y avait... quand même un paquet d'habitants qui n'avaient pas pu quitter la ville. Et il y avait cette femme, on ne sait pas qui c'était. Elle avait beaucoup de talent d'écriture et elle a écrit son journal d'une force incroyable parce que ça décrivait les événements, ce qui se passait, l'arrivée des soviétiques, l'occupation, la faim, la violence, la peur, la violence aussi avec les viols. Et cette vie-là au quotidien, dans les ruines, c'est vraiment un document brut en même temps que c'est de la littérature. Elle décrit ça de manière factuelle, même avec une pointe d'humour parfois, comme on l'entend un peu là dans ce passage, alors qu'il lui arrive les pires trucs. On sait très peu de choses de cette femme-là. Elle est restée anonyme. Il y a quelqu'un qui a cherché à publier ses carnets, et c'était dans les années 50, d'abord aux États-Unis, dans d'autres pays aussi, mais... En Allemagne, ça a été extrêmement mal reçu. Les gens ont prétendu que c'était faux parce qu'ils avaient honte de ce qui avait pu se passer. Donc il y avait un vrai déni de ce qui s'était passé. Donc après, il n'y a pas eu de réédition. L'autrice de ce texte n'a pas souhaité revivre les réactions à son texte. Et uniquement après sa mort, dans les années 2000, ça a été republié. Et là, ça a enfin été accepté en Allemagne parce qu'il y avait eu tout un cheminement par rapport à l'histoire. Apparemment, c'est une femme qui était, il semblerait, journaliste. Et à ce titre-là, elle a beaucoup voyagé, y compris en Union soviétique. C'est comme ça qu'elle parlait russe, c'est comme ça aussi qu'elle s'en est sortie, par cette volonté de vivre, mais aussi grâce à sa connaissance, même rudimentaire, de cette langue qui lui a permis d'essayer de survivre avec cet occupant. Donc c'est une œuvre précieuse, je trouve, à la fois document brut et littérature, par le talent de son autrice. Et c'est un page-turner, en fait. C'est quelque chose qui se lit avec vraiment passionnément, très vite. Le monsieur qui a fait sortir ce texte dans les années 50 aux États-Unis, il avait écrit un texte d'accompagnement. Et je trouve que sa conclusion est vachement intéressante. Donc je vais vous la lire. Ainsi l'auteur remportait-elle au sortir de ses tourbillons une victoire secrète. Avoir pu remonter des profondeurs du maelstrom et refaire surface. Non pas en vertu d'une loi physique, mais parce qu'elle ne s'est jamais abandonnée elle-même, tout en étant contrainte de s'abandonner aux autres. Et ça dit donc qu'on peut vivre des choses terribles et quand même trouver la force de s'en sortir.
C'était une chronique de Loéza Jacques. Merci à toi, Loéza.
6 heures avant minuit.
Loéza est de retour pour sa chronique littéraire, ça faisait un moment, ça s'appelle « Des mots sur la langue » et c'est tout de suite.
Des mots sur la langue.
Je le vis, je rougis, je pâlis à ses yeux. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps de manière étrangère.
Les livres de Loéza.
Elle ne se situait que très légèrement au-dessous de la moyenne d'âge du personnel du Project. Elle était surprise du nombre de fois où elle entendait parler de « contribuer à un monde meilleur » lorsqu'elle demandait aux autres pourquoi ils travaillaient pour Andreas. Elle s'étonnait qu'une formulation aussi ridicule, si noble soit le sentiment qu'elle exprimait, soit encore utilisée quelque part sur la planète. Apparemment, avoir le sens de l'ironie n'était pas une priorité dans la liste des compétences requises pour travailler ici. À la place d'Andreas, pour contribuer à un monde meilleur, Pip aurait peut-être commencé par intégrer quelques éléments féminins à l'équipe technique. À l'exception d'Anders, un Suédois gay très beau, qui avait des compétences journalistiques et rédigeait des résumés de révélations du Project, la répartition des tâches selon le sexe était parfaite. Les garçons faisaient de la programmation, dans un bâtiment sans fenêtres et très sécurisé, de l'autre côté du pré des chèvres, tandis que les filles, rassemblées dans la grange réaménagée, s'occupaient du développement communautaire, d'ERP et de l'optimisation du référencement, vérifiait les sources et dialoguait avec les intermédiaires, mettait à jour le site et tenait les comptes, enquêtait, communiquait sur les réseaux sociaux et rédigeait du contenu. Chacune d'elles avait un parcours plus fascinant que celui de Pip. Danoise, britannique ou éthiopienne, italienne, chilienne ou manhattanienne, elles semblaient avoir passé leurs années d'université non pas à aller en cours, elles avaient déjà lu et relu Ulysse à 12 ans, tout en fréquentant des écoles privées pour les surdoués, mais à s'absenter de Brown ou de Stanford durant des semestres entiers en vue d'exercer des boulots fabuleux pour Sean Combs ou Elizabeth Warren, de combattre le sida en Afrique subsaharienne ou de coucher avec les fondateurs non diplômés des start-up milliardaires de la Silicon Valley. Il était désormais clair pour Pip que le Sunlight Project ne pouvait pas être malsain ni sectaire car les autres jeunes femmes n'étaient pas du tout du genre à commettre des erreurs. Son parcours et ses attentes à elle n'avaient douloureusement rien de fabuleux. C'était Purity de Jonathan Franzen. Purity, c'est pas un livre qui est véritablement inratable, c'est pas une œuvre majeure, mais c'est un livre qu'on a envie de dévorer de la première à la dernière page. Et en passant, il aborde des sujets que je trouve intéressants. Parce que Jonathan Franzen, c'est un super auteur contemporain américain, c'est un romancier, c'est un essayiste, et il a beaucoup de finesse. Moi, l'exemplaire que j'ai, c'est un pavé, en fait. C'est un livre à la couverture rigide. Et donc, c'est quelque chose d'assez encombrant. Mais en regardant la page de garde, je me suis rendu compte que je l'avais quand même emporté, bah oui, dans des cafés où je buvais des cafés de façon interminable, mais aussi sur une île sauvage, sous la tente. Et voilà, donc il m'a accompagné. Il était encombrant. Et pourtant, j'avais envie de le trimballer partout. Donc, c'est ce genre de livre, un livre d'aventure, avec un très beau personnage de jeune femme paumée. Franzen, il a écrit Les Corrections, Freedom, Purity, plus récemment Crossroads. C'est des longs romans parce qu'ils développent la psychologie des personnages en profondeur. Et les personnages sont interconnectés. C'est des personnages qui sont compliqués, qui doutent, qui ratent des trucs, qui sont imparfaits, comme la vie. Et du coup, on est vraiment en prise avec le réel et c'est ça qui rend les histoires prenantes. Et là, dans le passage que j'ai choisi, la jeune femme, elle arrive en Bolivie parce qu'elle se retrouve dans l'histoire à s'engager pour une organisation de lanceurs d'alerte, dans l'espoir de retrouver la trace de son père. Et il se trouve que cette organisation a un chef charismatique et que ça va nous amener aussi à parler de son passé, et ça va nous amener à Berlin, quand c'était Berlin-Est. Donc on part de Berkeley, en Californie, on va en Bolivie, on se retrouve à Berlin-Est, à une autre époque. Donc il y a du voyage. C'est vraiment un roman contemporain qui décrit notre monde, hyper connecté. Il y a des trucs comme Wikileaks, et il est même question de Julian Assange. Donc on se pose des questions, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est vrai? Et comment est-ce qu'on peut mener sa barque dans ce monde-là, dans un monde imparfait, avec des gens imparfaits? Et avant tout, c'est un roman d'initiation. On nous avait habitués plutôt à des quêtes initiatiques au masculin. Et là, Franzen, il nous propose une jeune femme, maintenant, qui va être en quête de ses origines, de son identité. Donc je pense que Purity, vous allez le lire dans votre lit, dans un train, dans des cafés et dans des jardins, en faisant la queue au supermarché. C'est un livre qui va vous emporter, qui va vous faire partir à l'aventure.
C'était Des mots sur la langue, signé Loïsa Jacques.
6 heures avant minuit.
On passe à la partie chronique de cette émission et hasard du calendrier. Aujourd'hui, on reste dans la thématique littérature, puisque c'est la chronique Des mots sur la langue de Loïsa.
Des mots, c'est la guerre. Sur la langue,
je le vis, je rougis, je pâlis à ses vœux. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps changer et transir.
Les livres de Loaiza.
Bras qui se reposent, mes jambes qui dirigent, mains accrochées aux rails du surf et torse légèrement relevé, menton haut, Simon Limbre flotte. Il attend. Tout fluctue autour de lui. Des pans entiers de mer et de ciel surgissent et disparaissent dans chaque remous de la surface lente, lourde, ligneuse, une pâte basaltique. L'aube abrasive brûle son visage et sa peau se tend. Ses cils se durcissent comme des fils de vinyle. Les cristallins derrière ses pupilles se givrent comme si oubliés dans le fond d'un freezer. Et son cœur commence à ralentir, réagissant au froid. Quand soudain, il la voit venir. Il la voit qui s'avance, ferme et homogène, la vague, la promesse. Et d'instinct, se place pour en trouver l'entrée et s'y infiltrer. S'y glisser comme un bandit se glisse dans un coffre pour en braquer le trésor, même cagoule, même précision millimétrée du geste. Pour s'insérer dans son envers, dans cette torsion de la matière où le dedans s'éprouve plus vaste et plus profond encore que le dehors. Elle est là, à 30 mètres. Elle approche à vitesse constante. Et brusquement, concentrant son énergie dans ses avant-bras, Simon s'élance et rame de toutes ses forces, afin de prendre la vague de vitesse justement, afin d'être pris dans sa pente. Et maintenant c'est le take-off, phase ultra rapide où le monde entier se concentre et se précipite, flash temporel où il faut inhaler fort, couper toute respiration et rassembler son corps en une seule action, lui donner l'impulsion verticale qui le dressera sur la planche, pieds bien écartés, le gauche en avant, regular, jambes fléchies et dos plat quasiment parallèle au surf, bras ouverts stabilisant l'ensemble. Et cette seconde-là est décidément celle que Simon préfère, celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence et de se concilier les éléments, de s'incorporer au vivant. Et une fois debout sur le surf, on estime à cet instant la hauteur crête à creux à plus d'1,50 m, étirer l'espace, allonger le temps, jusqu'au bout de la course, épuiser l'énergie de chaque atome de mer, devenir déferlement, devenir vague. C'était « Réparer les vivants » de Maëlyse Kerangal. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que dans ce livre-là en particulier, c'est important de ne pas savoir ce qui va arriver. Et si je racontais quelque chose, ça enlèverait vraiment de la force à votre lecture. Donc, je ne dis rien, mais j'ai choisi ce passage parce que je trouve qu'il est très évocateur de l'écriture de Maëlyse Kerangal, une écriture qui a du souffle. Et comme ces personnages qui ont du souffle, et on voit leur corps, on voit le corps de ce surfeur. Ça nous parle de ce corps, et on le voit dans l'espace, on voit le mouvement. Donc elle sait nous immerger dans une réalité qui n'est pas forcément la nôtre, peut-être qu'on n'a jamais fait de surf. Et dans chacun de ses livres, elle nous immerge dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est vraiment comme de partir en voyage. Et je pense que c'est... Ou alors, c'est comme d'avoir les clés d'appartement qui ne sont pas les nôtres. Et comme ça, on peut aller découvrir comment c'est la vie des autres. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est très proche du réel, très proche des gens, proche de leurs sensations, de leurs émotions. Du coup, c'est très incarné. Et on peut dire que c'est pour de vrai, parce que c'est des vrais personnages. On y croit à fond et on finit par avoir le cœur qui bat pour eux. Elles nous transportent, comme ça, d'un livre à l'autre. On est avec eux, dans des vies qui ne sont pas les nôtres. Et dans Naissance d'un pont, un livre précédent, elle nous avait proposé tout un univers autour d'un chantier de pont en train de se faire. Et on allait de l'ingénieur à l'ouvrier, en passant par plein d'autres personnages qui étaient tous plus ou moins touchés par ce chantier en train de se faire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle elle brasse tous les milieux sociaux et elle nous donne comme ça à voir et à percevoir des mondes qui ne sont pas les nôtres. Et elle doit se documenter à fond, j'imagine, pour ça. Ces livres sont le fruit de ce travail. Et ça, je trouve ça très rafraîchissant de qu'il y ait autant de réel dans ces livres. C'est pas les énièmes personnages en train de se demander dans un café de la rive gauche s'ils sont amoureux de Joséphine ou nanana. C'est des personnages qui ont de la chair. C'est des gens, oui, ils ont des corps et on est avec leur corps et on est avec eux, tout simplement. Il y a de l'action dans les livres de Maëlyse Kerangal. Il y a vraiment de l'action. C'est assez épatant de voir aussi comment elle se renouvelle à chaque fois, mais toujours avec ce style marqué de phrases longues qui ont du souffle, où on voit les corps se déplacer. Et en même temps, elle intègre du jargon qui est plus ou moins heureux, à mon avis. Il y avait un petit passage là qui coupait le mouvement, qui empêchait un petit peu, je trouve, le décollage du surfeur. On estime En ce moment, le truc de crête à creux, ça, c'est juste un tout petit peu dommage, je trouve. Mais sinon, ça marche. Je recommande toute l'œuvre de Maëlys de Kerangal parce que c'est son écriture, elle est vivante comme elle, qui est vivante en ce moment, qui est sûrement en train d'écrire quelque chose. On peut voir son œuvre en mouvement et en train de se faire. On peut imaginer qu'il va y avoir d'autres livres à venir, comme des petits pains tout chauds.
C'était la chronique littéraire de Loéza. Des mots sur la langue. À bientôt, Loéza, pour une autre chronique.
6 heures avant minuit.
Loéza nous parle du premier livre de Nancy Houston dans sa chronique littéraire Des mots sur la langue.
Des mots, c'est ma gueule. Sur la langue. Je le vis. Je rougis. Je pâlis à ses vêtements. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps changer de manière étrange.
Les livres de Loéza.
Ça y est, j'ai senti un peu de sang sortir. Merde, tu aurais pu le changer juste avant, non? Je sais pas où sont les cabinets dans cette maison. C'est pas la catastrophe, une goutte de sang sur une robe de femme. À 12 ans, oui, ça méritait que tu rentres chez toi, jouer écarlate au milieu de la journée d'école parce que t'avais taché ton pantalon. Mais les gens pourraient s'habituer, non? Depuis les milliers d'années que ça arrive tous les mois à la moitié de l'humanité, et on réagit toujours comme si c'était anormal. Sur les feuilles, pour ma courbe de température, c'est marqué « jour de maladie ». Franchement. Comme la grossesse qui est prise en charge par l'assurance maladie, alors que sans elle, il n'y aurait pas de gens du tout, ni bien portants, ni malades. S'ils veulent se choquer du sang qui coule, ils pourraient faire un peu plus attention au champ de bataille, non? Mais ça, c'est pas maladif. Ça, c'est le beau sang rouge de la patrie. Ça, ils veulent bien en voir, ils en redemandent même. Et s'il n'y en a pas assez dans les journaux et aux informations télévisées, ils en mettent davantage dans les romans et les films. Ce sang-là, ils en avaleraient des litres tous les jours. Music for a while. Il y a un morceau de Purcell qui s'appelle comme ça. Music for a while. La musique pendant un moment. Je crois que c'est le morceau que je préfère au monde. Je sais pas de quoi ça parle. Je comprends pas très bien l'anglais, mais c'est très lent et très poignant. Et ça dit qu'on a le droit de s'occuper simplement de la musique de temps en temps. Pas tout le temps, mais pendant un moment. Qu'on n'est pas obligé de penser sans arrêt aux guerres et aux disputes conjugales et aux problèmes de fric et autres. Mais qu'on peut simplement fermer les yeux et ouvrir les oreilles et jouir de la musique pendant un moment. C'est très beau ce mot anglais « while » parce que c'est indéfini comme durée. Ça veut dire un certain temps. C'est-à-dire justement un temps incertain. Et ça me donne envie de pleurer, parce que ce sont les seuls moments, pendant la musique et pendant l'amour, où le temps est justement suspendu, où il n'est plus compté, où il s'écoule, et je suis prise tout entière par ce qui m'arrive pendant son écoulement, la jouissance musicale ou la jouissance amoureuse. Quelle blague! Non mais tu plaisantes ou quoi? Prise tout entière? De qui tu parles? Il suffit que les voisins du dessus allument la radio pour que tu n'arrives plus du tout à t'intéresser au corps de gens. Et s'il y a le moindre signe de jouissance qui pointe à l'horizon, tu penses tout de suite aux courses qu'il faudra faire demain après le travail. Est-ce qu'il vaut mieux acheter 200 grammes ou 300 grammes de viande hachée? Ça dépend de la taille des tomates. Tout, plutôt que de sombrer dans ce plaisir qui te fait vibrer les tripes et qui t'arracherait 30 secondes à ton train-train de pensée. Quant à Music for a While, parlons-en. À quoi as-tu pensé depuis le début de ce concert? À tes tampons imbibés? Est-ce que tu sais seulement quelle variation elle est en train de jouer en ce moment? C'était la variation Goldberg de Nancy Houston. Nancy Houston, elle est canadienne et très tôt, elle a choisi de vivre en France et d'écrire en français. Ses livres sont écrits en français. Et celui-ci, c'est son premier livre. Elle l'a sorti en 1981. Et depuis, elle en a fait un paquet de livres qui parlent souvent
de femmes. Les personnages sont des femmes. Je trouve ça toujours très excitant, en fait, de suivre l'œuvre en train de se faire d'un auteur qui est vivant et qui écrit au présent. Donc, c'est le cas de Nancy Houston, qui est toujours aussi, aussi en mouvement, aussi créative. Les variations Goldberg, elle les a orchestrées autour d'un personnage principal qui choisit d'inviter 30 personnes pour un concert de clavecin qu'elle va donner. Et pendant ce temps, pendant les 90 minutes du concert, elle a son propre monologue intérieur, mais ses invités aussi. Et il se trouve que ses invités ont tous un rapport avec elle, et souvent un rapport les uns avec les autres. Donc c'est très intéressant comment elle tisse ses voix intérieures. À chaque variation, il y a une voix intérieure différente. On passe d'un spectateur à l'autre. Et c'est pour ça que ça pourrait faire penser à Virginia Woolf, à cause de ses monologues intérieurs, mais il n'y a pas de flux de conscience, puisque c'est très séquencé d'une personne à l'autre, d'une variation à l'autre. C'est construit, c'est tissé. Et c'est très, je trouve, intéressant de voir cette démonstration des subjectivités à l'œuvre. Parce que, en théorie, ces gens qui partagent un temps donné, un lieu donné, et qui écoutent le même concert, ils devraient vivre une même expérience. Or, c'est ça qu'on lit dans les variations Goldberg, c'est toute une multiplicité d'expériences qui peuvent être vécues pendant un temps donné. Elle explique très bien ce qu'elle recherche sur la quatrième de couverture, et elle dit: si tu invitais 30 personnes chez toi, des êtres que tu as aimés et que tu aimes, pour t'écouter jouer au clavecin pendant 1h30, les variations Goldberg de Bach, et si ce concert se déroulait comme un songe d'une vie d'été, c'est-à-dire si toi, Liliane, tu parvenais à faire vibrer ces 30 personnes comme autant de variations, chacune à un diapason différent, il te faudrait pour ça osciller entre le souvenir et la spéculation. Il te faudrait surtout maîtriser tes peurs. Peut-être alors, tous tes fragments de musique s'animeraient-ils enfin dans une même coulée. Et cela s'appellerait les variations Goldberg, romance. Donc effectivement, ça commence par la voix intérieure de la personne qui va jouer et qui est assez mortifiée en fait avant de faire son concert et qui se dit: mais comment est-ce que je vais pouvoir tenir 90 minutes et c'est une torture que je m'inflige et tout ça. Et en fait, on va la retrouver à la fin, cette voix intérieure. Et entre les deux, il va y avoir 30 voix différentes. Donc c'est véritablement un concert, ce livre, Les Variations Goldberg. Et ça, c'est un extrait de Music for a While.
C'est la chronique des mots sur la langue de Loéza. Merci à toi, Loéza.
Si la langue.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe.
La radio sauvage.